Bonsoir. Le président de la République a convoqué hier soir le dialogue politique national inclusif. Selon l'ordonnance rendue publique à cet effet, ce forum national va se dérouler à Kinshasa sous la commodération d'un représentant de la majorité présidentielle et d'un représentant de l'opposition. La date de ces assises n'est pas encore fixée. Quel est le critère du dialogue convoqué par le chef de l'État? Nous en parlons avec le professeur Félicien Kabamba. Il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir, monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Et professeur Jeff Mugimbi, il est professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Mugimbi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le dialogue politique national inclusif se déroulera à Kinshasa sous la commodération des représentants de la majorité présidentielle et d'un représentant de l'opposition. Telle est la substance de l'ordonnance présidentielle rendue publique hier lundi dans la soirée. Les papiers d'Élisée Kikota rendus par Babel Pongo.
L'ordonnance présidentielle lue ce lundi 30 novembre à la télévision nationale n'a pas fixé de date précise du début des travaux de ce forum national. Le document de la présidence précise toutefois que la tenue de ce forum national sera précédée de la mise en place d'un comité préparatoire. Le dialogue national porte principalement sur l'organisation d'un processus électoral apaisé, complet, inclusif, crédible et conforme aux standards internationaux et sur toutes les questions connexes au processus électoral. Ce comité préparatoire devra être mis sur pied dans un délai ne dépassant pas 10 jours à dater de la signature de l'ordonnance présidentielle. Il sera composé, tout comme le dialogue proprement dit, de délégués de toutes les parties prenantes, à savoir la société civile, la majorité présidentielle et l'opposition politique. Le dialogue comprend un bureau et une plénière pouvant éclater en commission. Ce bureau est assisté d'un facilitateur international, précise l'ordonnance présidentielle. L'organisation et le fonctionnement du dialogue ainsi que du comité préparatoire sont fixés par un règlement intérieur.
L'UDPS refuse de participer au dialogue annoncé par le chef de l'État. Elle accuse Joseph Kabila de vouloir organiser un dialogue à sa manière. Elle accuse également des dérives visant la modification du système électoral. Selon le secrétaire national en charge des relations extérieures du parti d'Étienne Tshisekedi, le seul dialogue auquel le parti souscrit reste celui qui sera convoqué par un facilitateur international neutre. Et ce dialogue, précise Félix Tshisekedi, aura comme priorité notamment de discuter de l'organisation des élections législatives et présidentielles dans les délais constitutionnels. Félix Tshisekedi l'a dit à Jeff Ngoy.
L'UDPS participera à un dialogue qui se placera sous l'égide de la communauté internationale. Donc un dialogue à la sauce Kabila ne nous intéresse pas, et lui le sait d'ailleurs parce que nous avions eu 2 rounds de pré-discussion avant le dialogue, donc il sait très bien que ce dialogue doit se tenir de manière concertée. Il faut que nous nous entendions à la fois sur la date, sur le lieu, sur les thèmes, etc. Or nous voyons qu'il est en train de diriger tout seul les choses en essayant d'imposer sa vision. Et ça, nous disons non, donc nous ne participerons pas à un dialogue made in Kabila. Il fallait laisser à la communauté internationale, au secrétaire général de l'ONU, de désigner un facilitateur. Nous ne comprenons pas cette précipitation. Elle cache manifestement quelque chose, d'autant plus que dans son discours, M. Kabila était totalement à faune sur les problèmes qui le concernent, c'est-à-dire la fin de son mandat et l'alternance démocratique.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, le chef de l'État vient de convoquer à travers une ordonnance le dialogue politique national inclusif. Votre réaction?
Merci de l'opportunité que vous me donnez. Cette convocation est caractérisée par une impréparation manifeste qui aujourd'hui se trouve dans... Parce que quand vous suivez les acteurs, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas d'accord avec le schéma. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Au départ, c'est une impréparation. On avait déjà préconisé lors des émissions passées qu'une préconcertation avec les différents acteurs politiques devait aider de baliser le chemin du dialogue. Or, pour le moment, il y a une convocation sans qu'il y ait véritablement un accord des différentes parties sur la manière de convoquer. Qui convoquer et sur quoi le dialogue politique va porter? cette impréparation va certainement nous amener à une sorte de quelque chose d'inconnu. On espère que ça ne sera pas le chaos. Alors, quand vous regardez ce qui a été convoqué, on appelle cela dialogue, mais en réalité c'est un forum. C'est un forum qui est convoqué. Alors, on espère que pendant ce forum, les acteurs vont construire les compromis, vont aller au dialogue. On espère. Dire qu'on a convoqué le dialogue, c'est en fait un concept qui me paraît un peu de trop.
Alors la nuance que vous faites entre les dialogues et les forums, c'est...
Le dialogue, on le construit. On le construit sur la durée. On ne peut pas dire qu'on a convoqué un dialogue. Non. L'entendement du dialogue, c'est que c'est quelque chose, c'est une culture politique, c'est un processus qui se construit sur la durée.
Et à partir du moment... conjoncturel, c'est un forum.
Là, on est en train de... En fait, c'est un événement isolé. C'est un forum isolé. Un événement isolé qui ne s'insère pas dans une logique de construction de compromis. Parce que la construction de compromis qui pouvait conduire au dialogue devait, si vous voulez, impliquer l'ensemble des parties prenantes sur qui convoque le dialogue, comment on va le convoquer, qui va faire partie, de quoi on va parler. Il me semble bien que l'absence de ce processus de construction sur la durée de compromis va certainement nous amener à quelque chose d'inattendu. Il me semble aussi que là, c'est là qu'il y a l'impréparation.
L'article 5 de cette ordonnance dit que ces dialogues portent principalement sur l'organisation d'un processus électoral conforme aux standards internationaux. Et une certaine opinion trouve ces termes ambigus, standards internationaux, et se demande pourquoi ne peut-on pas dire carrément conforme à la constitution du pays, au lieu de parler des standards internationaux, qui est un terme qui semble ambigu.
Bon, écoutez, avec les concepts que choisissent les politiciens, vous pouvez avoir beaucoup de débats là-dessus, mais il me semble bien que l'idée centrale ici, c'est de centrer le dialogue sur les processus électoraux, et là-dedans, il y a beaucoup de choses à analyser. Il y a le mode électoral, donc le mode de scrutin, comme le chef de l'État lui-même l'a dit. Il faudra peut-être voir si le mode de scrutin est adapté, mais cela veut dire aussi qu'il faudra revoir la loi électorale, alors qu'elle venait d'être adoptée il n'y a pas très longtemps. Donc il y a là véritablement une matière à débattre.
Professeur Félicien, la date de ces forums n'est toujours pas précisée, ni dans les messages du chef de l'État, ni dans l'ordonnance convoquant ces dialogues. Et pourtant, il y a des experts qui estiment que cette date, si elle est connue, constituerait l'un des éléments déterminants par rapport au processus électoral.
Bon, je crois que le problème des dates est probablement posé par la vitesse avec laquelle va travailler le comité préparatoire.
Qui a 10 jours pour faire son travail.
Voilà. Et je ne suis pas très certain que dans les 10 jours, le comité préparatoire va véritablement sortir quelque chose qui permettra de fixer une date au dialogue. Tant il est vrai que les réactions des uns et des autres nous semblent conduire vers une véritable prolongation de la date. Et il me semble que... À écouter l'UDPS, à écouter le G7, à écouter les autres partis, on n'est pas très certain qu'on aura un dialogue inclusif. Parce qu'en fait, l'une des grandes caractéristiques du dialogue doit être son inclusion. Dans le dialogue, il faut qu'on trouve toutes les forces sociales, toutes les forces politiques. Et il faut que le dialogue soit caractérisé par un engagement politique fort de tous les participants. Et il me semble bien que les grandes forces politiques semblent ne pas être d'accord avec le dialogue. Là va être un véritable problème. À quoi sert d'organiser un dialogue si les grandes forces politiques ne sont pas là? Là sera un problème. Le comité préparatoire pouvait, s'il était accepté par tout le monde, avoir comme entre autres objectif de mettre toutes les forces politiques d'accord, non seulement sur l'objet de du dialogue, mais aussi sur qui participe et qui va jouer à la modération. Parce que quand on parle de la modération, on voudrait bien savoir si la formule proposée par le chef de l'État va rencontrer les avis et toutes les parties en présence. Donc là, vous avez véritablement beaucoup de choses sur lesquelles les acteurs politiques auront souhaité avoir des réserves.
Et selon cette ordonnance, ce forum va se dérouler sous la commodération d'un représentant de la majorité présidentielle et d'un représentant de l'opposition. Et comment, professeur, comment vous comprenez cela quand on se rappelle que récemment, le chef de l'État a demandé au secrétaire général des Nations Unies de désigner un médiateur international parmi les quatre personnalités qu'il lui avait proposées. Mais entre-temps, il parle d'une commodération constituée d'un représentant de la majorité et d'un représentant de l'opposition. Comment vous comprenez cela? Parce qu'on attendait à ce que, on s'attendait à ce que les secrétaires généraux des Nations Unies puissent désigner une des personnalités parmi les quatre qui lui avaient été proposées.
Alors, je ne sais pas ce qui a déterminé cette option, parce qu'au départ, les discours étaient assez tranchés. Vous avez l'UDPS qui proposait une modération internationale. Et vous avez la majorité qui disait, oui, mais écoutez, nous sommes indépendants, nous sommes matures, nous pouvons nous prendre en charge nous-mêmes. Eh bien, les positions de la majorité ont évolué, mais là, c'est une évolution vers une commodération. Pourquoi une commodération? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça, c'est une formule qui peut porter le fruit? Alors là, véritablement, nous nous posons tous ces questions-là.
Joseph Kongolo, analyste politique, quelle lecture vous faites du dialogue tel que convoqué par le chef de l'État?
Bien, merci beaucoup pour la question, surtout de m'avoir associé à ce débat avec mes professeurs. Je voudrais d'abord dire que le terrain politique sur lequel nous évoluons est composé des membres, des acteurs qui n'ont pas exercé ce que j'appelle l'écoute démocratique. C'est-à-dire que le président de la République a sorti une ordonnance, il a fait une sortie médiatique sur le dialogue sans tenir compte des points de vue d'autres acteurs politiques en présence. La preuve, c'est que au lendemain de la déclaration du président de la République, presque l'ensemble, c'est-à-dire qu'une grande partie, n'est-ce pas, des acteurs politiques et sociaux, ont fait des réactions qui ont montré effectivement qu'on ne les a pas pris au sérieux.
Et donc là, vous rejoignez le professeur Félicien Kabamba qui estime que cette convocation est caractérisée par une impréparation manifeste.
Impréparation, oui, mais je crois qu'on n'a pas pris au sérieux les acteurs, les partenaires politiques en présence. Ils ont des points de vue qui sont divergents. Je crois qu'il aurait fallu, n'est-ce pas, en tant que responsable politique, chercher à convaincre les partenaires, c'est-à-dire un travail de coulisses, n'est-ce pas, qui doit arriver à harmoniser pratiquement les points de vue avant que le président fasse une sortie. Donc c'est vrai qu'il y a de l'impréparation, mais encore qu'il y a une sorte de manque de respect à l'endroit des partenaires. La preuve, c'est que toutes les déclarations qui ont suivi la sortie médiatique du président de la République se posent en faux contre la démarche du président de la République. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans l'action politique des uns et des autres. Et particulièrement, le président de la République. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le terrain politique est plein d'a priori, ici en République démocratique du Congo. Quand on parle du dialogue, directement, on nous renvoie à la résolution 2098, on nous renvoie aux accords d'Addis Abeba, on nous renvoie à la résolution 2011. Voyez-vous? Donc, c'est un terrain qui est plein d'a priori dans cette matière-là du dialogue. Alors, nous nous demandons, le président de la République part de quel dialogue? La preuve, c'est que l'UDPS part, n'est-ce pas, d'un médiateur, qu'est-ce que je dis là, d'un facilitateur international, c'est-à-dire qu'il est dans la logique, n'est-ce pas, des accords d'Addis Abeba, pendant que le président de la République est dans une autre logique. Voyez-vous? Donc, moi je crois que on ne se fait pas confiance, il n'y a pas suffisamment confiance entre les partenaires politiques, et cela est manifeste. Donc ça montre effectivement que le président de la République n'a pas pris suffisamment de temps pour analyser en profondeur sa déclaration avant de la sortir. Ça c'est un. Et deuxièmement, les acteurs politiques l'ont désavoué tout de suite pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous inscrivons dans cette logique. Et ça, ça montre effectivement que c'est une classe politique qui n'a pas de solidarité, c'est une classe politique qui... La maturité, peut-être le mot est fort, mais qui n'a pas encore assez de maturité ou encore... si vous voulez, la précision ou le sérieux sur le problème et les dangers, n'est-ce pas, que la République court.
Et l'ordonnance convoquant ces dialogues dit que c'est un dialogue politique national et inclusif. Et vous avez suivi le professeur Félicien Kabamba qui estime qu'il n'y a pas d'inclusivité.
Effectivement, ils l'ont démontré. J'ai avec moi ici, il y a quelqu'un qui a pris soin de me donner la déclaration politique conjointe du 30 novembre. Je crois qu'il y a la dynamique de l'opposition, le G7. J'ai lu la déclaration, ils sont contre le dialogue. Ils ne peuvent pas s'engager, n'est-ce pas, dans cette démarche du président de la République, compte tenu, n'est-ce pas, de certaines déclarations. Il y a une nouveauté, tout ce qu'on avait considéré comme soupçon autrefois, aujourd'hui, ce sont des certitudes. Le président de la République veut revenir sous le mode de scrutin. Ça veut dire qu'il y a une révision constitutionnelle, n'est-ce pas, en vue. Alors, vous voyez, il y a un tas d'éléments qui démontrent effectivement ici qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons, qu'il y a des agendas cachés des uns des autres. Donc, nous disons effectivement qu'il y a cette impréparation en même temps qu'il n'y a pas vraiment de sérieux par rapport aux partenaires politiques.
Alors, comment vous expliquez le fait que, en dépit de toutes les réactions, n'est-ce pas, qui suscitent la convocation de ces dialogues, en dépit de cela, il y a des phrases qui disent que le dialogue est inclusif.
Il ne peut pas être inclusif. Il ne peut pas être inclusif du moment que une bonne partie d'acteurs politiques ont dit non à ce dialogue. En plus, ils ne se sont pas mis d'accord dans le pré-dialogue. Le professeur Vienne l'a dit tout à l'heure. Il aurait fallu mettre ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble des forces politiques pour organiser, n'est-ce pas, ce bureau préparatoire. Or, c'est d'une manière unilatérale que le président de la République a désigné ce bureau. Il est constitué des membres de la majorité présidentielle pour ne pas... tout ça, comment peut-il, ce dialogue peut-il être inclusif du moment que déjà la procédure et tout ce que le président a prévu a été rejeté par un grand nombre, n'est-ce pas, d'acteurs politiques. Donc, c'est un dialogue qui ne sera pas inclusif. Ça risque de revenir sur les pas des concertations nationales d'autrefois.
Mais il faut préciser ici que l'UDPS n'a pas dit qu'elle ne participe pas au dialogue. Hein. Elle a dit qu'elle participe seulement si le dialogue est convoqué par un médiateur international.
Mais effectivement, si nous suivons la logique de la déclaration du président de la République, qui veut qu'il y ait un bureau qui dirige le dialogue, assisté par, quelqu'un de la communauté internationale. Voyez-vous, c'est déjà en porte-à-faux, n'est-ce pas, contre la prise d'opposition de l'UDPS, ce qui montre que l'UDPS ne sera pas de la partie. Voyez-vous? Donc, cette inclusivité, elle est déclarée, mais effectivement, elle ne sera pas effective.
Mais entre-temps, l'ordonnance convoquant ce dialogue précise que le bureau de ce dialogue est assisté d'un facilitateur international. N'est-ce pas une réponse à cette exigence de l'UDPS?
C'est une démarche. Comme le professeur l'a dit, c'est-à-dire que la majorité a bougé, a changé un peu de position, mais pas dans la volonté, n'est-ce pas, de l'UDPS, par exemple, de l'UDPS qui voulait que ça soit fait par un facilitateur international qui convoque, qui organise, parce qu'il considère que le régime, la majorité, le président de la République est partie du problème, il ne peut pas être à la fois jugé partie. Donc c'est tout à fait logique, ce qui fait que la majorité a certainement évolué, n'est-ce pas, dans sa position, comme le professeur l'a dit, mais ce n'est pas dans le sens, n'est-ce pas, de l'UDPS qui avait réclamé que le facilitateur soit de la communauté internationale.
Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, votre analyse par rapport au dialogue convoqué par le chef de l'État?
Merci beaucoup, M. Guy, pour la parole que vous m'accordez. Et avant toute chose, je voudrais quand même saluer le co-débatteur. Je voudrais dire ceci, que lorsque dans une société il y a des problèmes, il est tout à fait normal que les gens se mettent autour d'une table pour discuter et envisager des pistes et des solutions aux problèmes. Et s'agissant du cas de la RDC, le problème est celui de l'organisation des élections, ou mieux encore, d'un processus électoral apaisé. Et l'une des solutions s'avère être le dialogue. Mais je voudrais à ce niveau préciser que l'efficacité du dialogue implique un consensus où la volonté des différentes classes sociales ou bien des forces sociales en présence de se mettre ensemble pour trouver une solution mutuellement acceptable. Or, pour le cas de notre pays, ce consensus-là est loin d'être trouvé, tout simplement parce qu'au regard du discours du président de la République, il y a un certain nombre de points que les autres forces en présence n'acceptent pas. Alors, je voudrais ici rappeler, la mémoire collective, que nous devons tirer les leçons de l'histoire avec les concertations nationales. Ces concertations ont été organisées en l'absence de certaines forces politiques en RDC et aujourd'hui, ces concertations-là n'ont produit presque pas d'effet sur la scène politique. Alors, je crains aussi que, considérant le contexte dans lequel le dialogue est convoqué, que nous puissions tomber à la formule selon laquelle, après le dialogue, sera égal avant le dialogue. Mais le problème que peut se poser, que nous pouvons, ou la question que nous pouvons soulever à ce niveau, est la suivante. Aujourd'hui, l'UDPS vient de déclarer, comme du reste d'autres forces politiques, le refus de participer à ce dialogue. Mais dans l'entretemps, il y a un problème sérieux, c'est celui des élections. Dans l'entretemps, qu'est-ce que l'on doit faire? Quelle est la piste que l'on va envisager pour tenter de trouver solution à ce problème? Il y en a qui pensent que l'Assemblée nationale peut se saisir du dossier et directement parler, trouver solution. Mais moi, je dis ceci que, et c'est vrai, cela n'est possible que lorsque nous sommes dans un pays où la démocratie s'est réellement enracinée. Mais ici chez nous, en République démocratique du Congo, même si on peut parler des institutions républicaines, c'est vrai, elles sont républicaines tout simplement parce que ces institutions-là sont animées par des animateurs qui ont été élus. Mais cela ne suffit pas pour faire de ces institutions-là des institutions purement républicaines. Il faudrait en plus que ces institutions-là travaillent dans le sens de la volonté du peuple ou bien dans le sens de l'intérêt général. Or, pour le moment, nous constatons au niveau de l'Assemblée nationale que tout ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt de la majorité présidentielle.
Professeur,
alors,
vous avez...
que faut-il faire dans l'entrée, au moment où on n'accepte pas le dialogue? Et c'est ainsi que je suis en train de craindre que l'opposition, qui cherche à éviter les glissements, mais d'une manière ou d'une autre, si on ne fait pas attention, nous sommes où l'opposition est en train de consacrer le glissement qu'il est en train d'éviter.
Oui, professeur, vous avez commencé à les relever. Et d'une part, il y a l'UDPS qui réitère sa position selon laquelle elle ne peut participer au dialogue que si celui-ci est convoqué par un médiateur international. De l'autre, il y a le G7 et la dynamique de l'opposition qui réitèrent aussi leur position selon laquelle le dialogue n'est pas opportun, d'autant plus que son objet, donc le processus électoral, peut être solutionné dans une tripartite opposition, majorité et CENI. Mais on se rend compte que la décision du chef de l'État convoquant ces dialogues ne se conforme ni à la position de l'UDPS, ni à celle de la dynamique de l'opposition. Peut-on parler d'une impasse?
Oui, effectivement, il s'agit là d'une impasse. Pourquoi? Parce que déjà le dialogue est convoqué en l'absence totale d'un consensus. Et sans être beaucoup plus pessimiste, je peux me permettre de déclarer haut et fort que le dialogue convoqué est mort-né.
Un mort-né pourquoi?
Alors, oui, un mort-né parce que ce dialogue dont on souhaite être inclusif, il ne le sera pas. Et en l'absence des forces de l'opposition, il sera difficile de trouver une solution mutuellement acceptable.
Alors, professeur, vous avez dit que l'efficacité d'un dialogue implique un consensus, et donc là, vous rejoignez le professeur Félicien Kabamba qui a estimé qu'il faut un pré-dialogue pour essayer d'harmoniser les points de vue des uns et des autres.
Ça, c'est tout à fait normal, parce que quand il y a une préparation, un pré-dialogue, à ce moment-là, on va aboutir à des solutions mutuellement acceptables. Or, dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, le président se propose de nommer des facilitateurs. Et vous savez la conséquence des facilitateurs. Et quoi ça de la nomination? La nomination a comme conséquence que les gens qui sont nommés n'ont pas de compte à rendre à la population, mais ils auront des comptes à rendre à la personne qui les a nommés. Et à ce niveau, les facilitateurs auront des comptes à rendre au président Kabila. Or, ainsi que l'a dit un des co-débatteurs, le président Kabila constitue d'abord un problème autour duquel le dialogue doit graviter sur la fin de son mandat.
Merci, professeur.
Donc, vous comprenez pourquoi je dis il y a de fortes chances que nous puissions nous retrouver dans une situation telle que après le dialogue sera égal avant le dialogue.
Merci professeur Jeff Mudimbi. Professeur Félicien Kabamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Il se peut que le président de la République lui-même doute encore de l'effectivité de ce dialogue. L'ordonnance précitée n'a pas de raison d'être car contenant beaucoup de zones d'ombre. En plus, faudra-t-il rappeler que par la bouche de certains membres influents de la majorité présidentielle, le dit dialogue pourrait se tenir le 15 novembre 2015 avant que l'IDPS ne repousse la date au 30 du même mois. Les éléments cités ci-haut interpellent la conscience et la vigilance des uns et des autres pour ne pas nous soumettre à un fait accompli. Sinon, nous déplorons la volonté manifeste des tenants du pouvoir d'étirer les choses à longueur pour leurs intérêts égoïstes au lieu d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, chose encore possible pour le moment.
Professeur Félicien Kamamba.
Oui, je crois que la lecture qu'il a faite nécessite une attention particulière. Nous venons de dire que la convocation de ce qu'on appelait dialogue s'est réalisée dans une certaine impréparation, dans la mesure où les différents acteurs politiques ne s'étaient pas encore mis d'accord alors sur l'opportunité du dialogue. Le dialogue lui-même est-il opportun en ce moment? Certains vous disent non, nous voulons les élections. D'autres vous disent oui, nous voulons les dialogues, mais à condition. Et donc nous sommes là dans un environnement où véritablement la question du dialogue ne met pas tous les acteurs politiques d'accord. Voilà pourquoi il fallait, avant de le convoquer, construire une sorte de compromis autour d'ailleurs de l'opportunité du dialogue avant d'envisager les modalités de sa faisabilité. Mais aujourd'hui, le dialogue est déjà convoqué. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est le problème d'une véritable stratégie de communication autour du dialogue. Si vous posez des questions aux uns et aux autres, eh bien, il y a une très grande divergence sur les attentes autour du dialogue. Qu'est-ce qu'on a communiqué autour du dialogue? On a entendu beaucoup de choses. La stratégie de communication sur le dialogue a été véritablement un problème. Et aujourd'hui, chacun a son entendement du dialogue. L'ordonnance convoquant le dialogue lui-même a laissé un certain nombre de questions. Vous avez parlé de la date réelle. La date réelle n'est pas connue. Le comité en question, de qui il sera composé, on ne connaît pas. Et donc, il y a là un certain nombre de choses qui sont restées sans réponse.
Alors, cette impréparation manifeste que vous relevez peut être expliquée par quoi? Par le manque du respect à l'endroit du partenaire, comme l'a dit Joseph Ngolo?
Non, je crois qu'au niveau de chaque camp, il y a des stratagèmes, il y a des stratégies politiques qui sont concoctées, dans le sens évidemment, pour l'opposition. L'opposition voudrait aller aux élections pour voir une alternance être faite. Pour la majorité, elle cherche à conserver le pouvoir. Et donc chaque camp est en train de ficeler des stratégies politiques. Et la majorité également, qui est derrière l'idée du dialogue, a également ses propres stratégies. Alors, il me semble bien que les stratégies de la majorité aujourd'hui reposent sur le dialogue. Mais le dialogue, comment on va l'organiser? Là est tout le problème.
Vous avez relevé le déficit des communications par rapport à ces dialogues. Qui devait mettre en place cette stratégie de communication? Le pouvoir en place ou c'est les partenaires de l'opposition?
Alors, quand vous regardez le point de départ du dialogue, ont été faites par quoi? Le chef de l'État a commencé à recevoir un certain nombre de parties prenantes, une à une. C'était ça le point de départ. Et après, une synthèse a été faite. La synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que voilà, les différentes parties prenantes ont trouvé qu'il y avait nécessité de tenir les dialogues. C'est là.
Avec comme objet le processus électoral.
Voilà. C'est là que véritablement la stratégie de communication n'a pas été suffisante.
Mais officiellement, c'était ce qui était dit, hein, que ce dialogue aura comme objet principal le processus électoral. Il fallait ajouter quel élément pour que la stratégie soit efficace?
En fait, quand, à partir du moment où les différents acteurs rencontrent le chef de l'État, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça a été archivé où? Quel est le rapport écrit qui en est sorti?
Et vous pensez qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ont été cachées au public?
Pas du tout. D'abord, il y a la forme elle-même. Parce que ça, ici nous parlons d'une nécessité d'une préconcertation entre tout le monde. Alors, au lieu d'une préconcertation entre toutes les parties prenantes, il y a eu plutôt cette formule qui avait été trouvée et qui faisait qu'en fait, que le chef de l'État rencontrait en personne chacune des parties. Est-ce là les préconcertations dont on parle? Ne fallait-il pas changer de forme, la forme de préconcertation, plutôt que de responsabiliser le chef de l'État pour qu'il reçoive individuellement chacune des parties? Il fallait que les différentes parties se retrouvent et qu'elles voient si le dialogue politique est opportun et si il est opportun, quelles sont les questions à mettre sur la table, qui va être participant à ce dialogue, comment les résolutions du dialogue vont être prises et comment elles vont être appliquées. Il y a là une série de questions qui pouvaient être mises sur la table et discutées.
Merci, Joseph Kongolo. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Maître Adrien Iloba Peipero à Kananga, au Kasaï Central. Je me demande pourquoi la majorité présidentielle ne veut pas la facilitation d'un étranger pour apaiser les esprits. Pourtant, 4 noms étaient proposés au secrétaire des Nations Unies. Que fera la majorité présidentielle si toutes les parties de l'opposition parvenaient à décliner l'appel du chef de l'État? Bref, en lisant attentivement l'ordonnance chef de l'État d'hier, j'ai comme l'impression que celle-ci risque de décourager certaines personnes qui s'étaient déjà engagées pour ce dialogue.
Oui, Joseph Kongolo.
Oui, merci beaucoup, M. Adrien. Je l'ai dit au début qu'il y avait un problème d'écoute. C'est-à-dire que le président n'a pas pris au sérieux les partenaires politiques. Ça, il faut lui dire. Même si le professeur vient d'ajouter un élément aux stratégies de la communication, mais il y a même, en plus de tous ces éléments, regardez comment l'ordonnance a été accompagnée de certaines considérations qui, au lieu de ramener les gens, n'est-ce pas, vers un consensus, c'est plutôt dispersé. Quand on parle de changement de mode de scrutin, quand ce sont des éléments très étrangers qui n'ont pas de rapport avec la vision de celui qui veut convoquer le dialogue. Ce sont des éléments qui divisent. Il y a autant d'éléments dans cette adresse du président de la République qui montrent bien que, est-ce que ce n'est pas aussi la stratégie du président de ne pas aller au dialogue, enfin? Il y a des éléments étrangers qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui veut effectivement le dialogue. Vous voulez changer le mode de scrutin, ça veut dire quoi? C'est une révision constitutionnelle, parce que le mode de scrutin est consacré dans la Constitution. Donc il y a d'autres éléments dans ce discours qui montrent que le président veut éparpiller au lieu de réunir, au lieu de mettre ensemble, il a plutôt éparpillé les gens. Et vous avez compris la rapidité, la hargne avec laquelle, d'ailleurs, les différentes parties ont réagi à ce débat.
Alors, vous pensez qu'il a intérêt à saboter le dialogue que lui-même a initié et convoqué?
Je fais une analyse du discours. Je trouve qu'il y a des éléments étrangers qui ne devaient pas être là. Au lieu de réunir, ça a plutôt dispersé. Voyez-vous? Je ne voudrais pas lui prêter toutes ses intentions, mais au moins, c'est le message de la communication. Le professeur a parlé, n'est-ce pas, de la stratégie de la communication, mais le message lui-même, il semble qu'il n'était pas suffisamment habillé, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, les gens aller dans le même sens.
Alors, que répondez-vous à l'aspect évoqué par l'auditeur de Kananga, qui parlait d'un scénario où l'opposition ne va pas participer à ces dialogues?
Nous l'avions dit. D'abord, il a commencé par se demander pourquoi le président de la République n'aime pas la facilitation internationale. Oui, mais écoutez, le président de la République est un acteur politique, il joue le jeu, n'est-ce pas, de la majorité, il a des agendas cachés. Nous disons toujours qu'en matière de négociation, les 3 H, hyper, hypothèse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le président de la République met la barre très haut. Pour céder, il faut parfois des concessions. Donc le président de la République sait pourquoi il faut pas un facilitateur international. Il a besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un, un fils du pays, peut-être, qu'il peut facilement manipuler. Parce que nous ne voyons pas pourquoi il refuse un facilitateur international pendant que le pays lui-même, n'est-ce pas, si vous voulez, il est en partie dirigé ou si vous voulez assisté par la communauté internationale sur le plan sécuritaire, sur d'autres plans. Nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un ne peut pas venir. Et surtout que ça a été consacré dans les textes, dans les instruments juridiques internationaux, tels que la résolution, les accords d'Addis Abeba, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour le Congolais aujourd'hui de voir un facilitateur international venir diriger le dialogue. Ce n'est pas une nouveauté, c'est déjà du déjà entendu, c'est du déjà fait, et parce que nous sommes sous assistance de la communauté internationale. Donc, il fallait s'impliquer dans cette logique, si le président n'avait rien à se reprocher, si le président n'avait pas des agendas cachés, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas ça, comme les accords d'Addis Abeba le demandent.
Voyez-vous. Vous pensez que l'implication d'un facilitateur international pourrait changer les choses si, dès le départ, il n'y a pas des volontés politiques manifestes ?
Non, attention. Avec le facilitateur international, il va au préalable faire des pré-consultations auprès de toutes les parties prenantes. Et en ce moment-là, il va se faire l'idée de l'objet du dialogue. N'est-ce pas ? Il va se faire l'objet du dialogue et ça sera un consensus autour, n'est-ce pas, de tous ces objets. Voyez-vous, ce qui n'est pas le cas avec le président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Adrien demande qu'est-ce qui se ferait si, effectivement, ce n'est pas que si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des forces politiques, enfin, l'ensemble un grand nombre des partis politiques et des forces sociales disent non au dialogue convoqué par le président de la République. Ils l'ont fait voir, ils l'ont déclaré dans les médias. Ils disent non. Ça veut dire que c'est un mort-né, comme le professeur Moudimbi l'a dit. C'est un mort-né, c'est une histoire qui risque de ne pas avoir lieu.
Et qu'est-ce qui pourrait se passer au cas où l'opposition ne participe pas à ces dialogues ?
C'est ça l'impasse politique. La défaillance de la classe politique. Voyez-vous ? Et ça risque, en pays sous assistance, en matière sécuritaire, ça risque, n'est-ce pas, de fragiliser davantage les institutions. Voyez-vous, ça risque encore d'aggraver déjà les problèmes que nous avons, tels qu'à guerre à l'Est. Vous suivez ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus il y a déliquescence, n'est-ce pas, au niveau de la classe politique, plus il y a l'insécurité qui monte à l'Est. Donc, ce sont des éléments que nous devons craindre. Et surtout qu'il est connu que dans 10 pays post-conflit, 5 ans plus tard, si on n'a pas consolidé la sécurité, ce sont des pays qui retombent toujours dans l'insécurité. Donc, nous craignons tous ces éléments pour que le pays ne tombe pas dans l'insécurité généralisée.
Professeur Jeff Moudimbi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Bénédiction Minigo de Bukavu dans la province du sud Kivu. En analysant objectivement les points inscrits sur l'agenda de ce dialogue convoqué par les chefs de l'État, je suis très étonné de constater la Constitution et d'autres lois de la République bien et soigneusement apporter la solution aux problèmes évoqués par l'ensemble de la famille politique du chef de l'État. À ce qui concerne les moyens, je ne vois pas par quelle magie ce forum agendera de l'argent. Seule la volonté politique du régime Kabila suffise pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels.
Oui, professeur Jeff Moudimbi.
Merci beaucoup. J'ai suivi à peine quoi sur la préoccupation de notre auditeur. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider un peu à reprendre les grandes lignes.
Il dit, en analysant objectivement les points inscrits sur l'agenda de ce dialogue convoqué par le chef de l'État, je suis très étonné de constater que la Constitution et d'autres lois de la République peuvent bien et soigneusement solutionner les problèmes liés au cycle électoral évoqué par l'ensemble de la famille politique du chef de l'État.
Ok. Merci beaucoup. L'auditeur a vraiment raison, parce que le problème qui se pose ici en RDC, c'est le non-respect des textes. Nous avons des textes qui sont suffisamment bien élaborés et par des hommes bien formés, mais le problème de notre pays, c'est la mise en pratique des dispositions que nous avons. Et je voudrais évoquer, par exemple, le cas du président de la République lorsqu'il dit qu'il faudrait envisager un mode de scrutin qui soit moins coûteux. Or, implicitement, il a dit qu'il s'agit du mode ou du suffrage indirect. Mais je voudrais aussi évoquer l'idée selon laquelle le mode de scrutin peut être aussi déterminé par la forme ou la nature du régime politique. Ainsi, lorsque nous sommes dans un régime présidentiel, il est établi que l'élection du président de la République se fait au suffrage universel direct. Et lorsque nous sommes dans un régime parlementaire, l'élection du président de la République se fait au suffrage indirect. Donc, implicitement, le président de la République demande que soit révisé et que soit revu le régime politique qui est en vigueur en RDC. Cela entraînerait, bien entendu, aussi la modification de la Constitution. Alors que nous savons, face à la Constitution elle-même, prévoit les conditions qu'il faudrait réunir pour arriver à la modification de telle ou telle autre disposition constitutionnelle. Effectivement, l'auditeur a raison, mais tout simplement c'est parce que nous avons des agendas cachés. Et c'est ici qu'il faudrait peut-être rappeler que le président lui-même de la République avait très bien dit que je respecterai la Constitution. Alors, pour un peu appuyer ce que M. Joseph Kongolo venait de dire, si réellement il n'y a pas d'agenda caché, si réellement on n'est pas en train de jouer au jeu d'intrigue, et je crois que le problème ne se poserait pas. Le problème de la révision ou bien des modifications du mode de scrutin ne se poserait pas. Il faudrait absolument respecter ce que la Constitution dispose.
Professeur Moudimbi.
Oui.
Comment vous analysez cette phrase? Le dialogue politique s'impose comme la contrepartie paisible de tout règlement des différends afin de prévenir des troubles pour faire couler le sang des Congolais. Et comment vous expliquez cette tendance à brandir le spectre de la violence, le spectre du chaos, comme pour dire s'il n'y a pas de dialogue, c'est le chaos, c'est la violence. Comment vous expliquez cette tendance-là?
Ok, s'il n'y a pas de dialogue, d'ailleurs vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de gens ont dit que en l'absence du dialogue, par exemple si nous prenons le cas de ceux-là qui ont dit non au dialogue, ils sont en train de brandir l'article 64 de la Constitution qui dispose que les citoyens congolais ont droit d'opposer une résistance à quiconque exercerait le pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Alors, à ce moment-là, on demande implicitement à la population d'être sur la rue. Et ici, je voudrais préciser une chose, on ne peut pas traiter avec l'État comme on traite avec n'importe quelle organisation.
Merci pour ce que nous sommes à la fin.
L'État, c'est une organisation qui est dotée de prérogatives et de puissance publique.
Merci pour ce que nous sommes à la fin de l'émission. Professeur Félicien Kababa, votre conclusion.
Je crois que l'opposition attend du chef de l'État un discours. Un discours dans lequel il parle de lui-même. Il parle de son avenir politique. Alors, dans tous les discours, le chef de l'État n'a pas parlé de lui-même et de son avenir. Cette clarification de l'avenir du chef de l'État par lui-même aurait un effet productif sur l'avenir du dialogue politique.
Merci, Joseph Kongolo. Votre conclusion?
Je voudrais dire que c'est bien de prendre les partenaires politiques au sérieux, de prendre en considération leur position et d'essayer de trouver un consensus plutôt que de brandir sa position. Je crois que ce n'est pas une bonne attitude pour un chef.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Yassine Zakala qui était à la technique. Merci à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais. Alain Rung, Kéline Kouté, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Julien Nyamouini. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.